Bienvenue dans cette module 6 de notre workshop de migration. Là, on va vous parler un petit peu de la méthodologie à mettre en place et le projet à mettre en place pour faire ce travail de migration. Donc, il est relativement simple et classique, hein. Les démarches à mettre en place sont relativement simples. Stan, je sais que c'est un petit peu ton dada. Explique-nous ce qu'il faut faire.
Alors là-dessus, effectivement, ça n'a rien de particulier entre un projet de migration de navigateur ou un projet de migration d'un système ou d'application. On est à peu près dans la même chose. Enfin, on est assez proche finalement de la démarche qu'on peut avoir quand on fait une migration de système d'exploitation, par exemple de Windows XP vers Windows 7. Donc c'est relativement similaire, mais pour être clair, en fait, de toute façon, la migration d'IE 6 vers IE 8, c'est quelque part une partie du projet, en fait, de migration de Windows XP vers Windows 7. Il faut être complètement clair là-dessus.
Donc, ce qu'on dit souvent à nos clients, finalement, c'est l'argent que vous allez dépenser pour vous mettre à conformité, entre guillemets, à IE8, de passer de IE6 à IE8, c'est de l'argent que vous auriez investi de toute manière pour passer de Windows XP à Windows 7.
Au-delà de l'argent, le temps et les hommes qui vont travailler sur le sujet seront également un investissement pour le futur.
Donc, rien ne vous empêche, du coup, de le faire en deux temps, de commencer par finalement qualifier les applications web sur un XP IE8. Et ensuite migrer sur la partie Windows 7 complète pour tester alors ce coup-ci les applications lourdes.
Voilà. Donc la démarche, globalement, elle est la suivante. État numéro 1, surtout si vous êtes dans une grande entreprise, mais dans tous les cas, c'est valable, même si on est dans une petite structure, c'est de faire un inventaire des applications disponibles dans le parc. Donc là, quand on parle d'applications, on parle bien entendu des applications web, plus ou moins web. Hein, tu nous en as parlé dans les modules précédents, que, en fonction des technologies utilisées, on n'était pas forcément dans du vrai web.
Du pure web.
Du pure web. Donc, état numéro 1, faire l'inventaire. Donc, l'inventaire, il peut être relativement simple à faire quand on a un petit environnement ou qu'on est très centralisé. Il peut devenir plus compliqué, ça on a pu voir le cas avec certains de nos grands comptes. Il peut être plus compliqué quand simplement l'informatique est décentralisée, qu'elle est répartie sur plusieurs sites géographiques, voire plusieurs pays, et voire plusieurs populations. Auquel cas, on peut avoir chaque pays qui peut être plus ou moins indépendant, par exemple en termes de budget IT, et qui peut avoir plusieurs applications. Et le pays numéro 1 ne connaît pas forcément les applications utilisées par le pays numéro 2. Même chose quand on a une grosse structure qui a, on va dire, racheté, qui a donc incorporé dans son système des structures qui existaient déjà avec des applications existantes. L'informatique centralisée du groupe ne connaît pas forcément tout ce qu'il peut y avoir dans les filiales ou les sociétés rachetées. Donc, première étape vraiment la plus importante, faire l'inventaire de ces applications web. Deuxième étape, eh bien une fois que vous avez listé l'ensemble des applications intranet web de votre entreprise, eh bien il va falloir en fait simplement faire une priorisation de ces applications. Sachant que la règle est relativement simple, l'application qui est absolument nécessaire pour le métier devient l'application prioritaire. Et puis on descend jusqu'aux applications utilisées sporadiquement, voire plus utilisées. Il se peut que vous ayez encore des applications qui tournent sur des serveurs, qui aujourd'hui sont peut-être utilisées par une ou deux personnes, voire même qui ne sont plus utilisées parce qu'elles ont été remplacées par une autre application. Mais comme les personnes qui gèrent ce serveur ne sont pas forcément les gens du métier, les gens fonctionnels, et qu'on leur a pas dit, c'est bon, il n'y a plus personne qui s'en sert, l'application peut encore tourner derrière. Et puis on a certaines applications qui existent, qui sont encore utilisées aujourd'hui, mais qui sont utilisées à des instants bien donnés. Moi, j'ai le cas d'un client qui avait un serveur qui tournait 24 heures sur 24, qui tournait depuis quelques années, dont l'application qui était disponible dessus était simplement l'application permettant d'envoyer les cartes de vœux, enfin les vœux du président à chaque fin d'année auprès de ses amis et relations professionnelles. Donc on est bien d'accord que cette application donnée, mise à part le 31 au soir, elle n'était pas utilisée le reste de l'année et ce n'était pas celle-ci qui allait empêcher de faire fonctionner l'entreprise et
Même
son
si on
business.
sait que des fois le PDG a peut-être plus de poids que
Mais
la problématique
ça fait
technique.
partie des éléments de la priorisation. Donc effectivement, si la priorisation, l'application est faite, on va dire, pour une migration qui va arriver pour fin décembre, là ça peut valoir le coup de le monter dans la priorité. Je vous laisse juste, ce n'est pas à nous de juger quelles applications sont prioritaires ou pas pour vous. Une fois que vous avez fait ce travail en fait de qualification, inventaire et priorisation, eh bien à ce moment-là, vous rentrez réellement dans le vif du sujet, qui est en fait d'utiliser différents outils à disposition et de tester ces applications, de tester leur niveau de compatibilité et leur niveau potentiellement de problème qu'il peut y avoir entre un IE 6 sur Windows XP et un IE 8 sur XP ou version ultérieure du système d'exploitation.
Là, vous avez donc la gamme de tous les techniques et produits qu'on vous a montrés dans les modules précédents pour vous aider sur cette phase-là, en fait.
Voilà. Donc là-dedans, il va effectivement y avoir deux problématiques, on le rappelle, hein. Le problème purement visuel de rendu, en fait. Donc simplement de la mise en page, basiquement, c'est ça. Donc ça, on l'a vu dans les modules précédents, c'est relativement simple à mettre en œuvre et à corriger. Un peu plus compliqué, bah, effectivement, quand on va avoir bah, les applications. Alors après, à voir si c'est du problème là encore un peu visuel ou plutôt fonctionnel. Et donc, vous allez donc utiliser et tester bah, les différents outils pour pouvoir justement trouver la solution pour rendre en fait l'application compatible ou utilisable en tout cas avec IE8. Donc, le processus de test, globalement, il est relativement standard. Hein. Vous pourriez utiliser le même, entre guillemets, le même approche avec la qualification d'une application Win32 qui passerait d'un Windows XP vers un Windows 7, par exemple. Donc, un, c'est déterminer les scénarios. La plupart du temps, l'informatique n'est pas la spécialiste des applications qui sont des applications métiers. Donc, il va falloir, à un moment, mettre, on va dire, dans la balance et dans le jeu du travail de migration, il va falloir mettre des utilisateurs, donc des personnes fonctionnelles du métier qui, eux, connaissent bien leur application, qui s'en servent tous les jours et qui sont capables de vous dire bah, l'application, elle marche ou elle ne marche pas. C'est-à-dire, c'est pas un informaticien ou un responsable de développement, surtout si ce n'est pas son application, de dire ou pas, bah, l'application, elle marche bien sur IE8 parce que voilà, je suis arrivé dessus, ça va cracher, ou j'ai pu me loguer, ça va pas cracher. Donc il va vraiment falloir impliquer, et on insiste sur ce point-là, les personnes du métier, les fonctionnaires, qui vont vous permettre en fait simplement de créer les scénarios de jeu de test et de dire, bah écoute, moi pour tous les jours, les tâches principales qu'on utilise, c'est je fais telle action, telle action, telle action, pour faire telle opération, telle opération, telle opération. Ces opérations-là, elles sont moins importantes, donc du coup, ça va vous permettre de qualifier un petit peu si le problème, il est sérieux ou pas. Donc, une fois que vous avez déterminé les scénarios, vous avez commencé à tester, vous allez pouvoir donc qualifier les problèmes. Alors après, il y a différentes méthodologies ou standards pour définir des problèmes. Je vous ai fait une version relativement simple qui, à mon avis, a le bon côté en fait d'être compréhensible par tout le monde et puis reproductible quelle que soit la taille de l'entreprise.
Moi, je le comprends en tout cas.
Oui, en plus, c'est développeur.
Merci.
Donc, en gros, si on faisait une échelle simplement basée sur des couleurs à 4 niveaux, je dirais score numéro 1, vert, pas de problème connu. Et pas de problème globalement, ça fonctionne de la même manière entre mon IE 6 et mon IE 8 ou version ultérieure.
Super green,
ça c'est le meilleur des cas, donc ça correspond, si on regarde factuellement aujourd'hui ce que nous ont remonté nos clients en termes de chiffres, à peu près à 75% des applications que vous pouvez avoir chez vous. Deuxième numéro cas, donc on va dire couleur jaune, niveau 2 de score. L'application elle est utilisable, par contre il y a certains problèmes mineurs qui peuvent être, on va dire, pas forcément bloquants. Donc ça peut être simplement un peu de l'affichage, ça peut être que certaines fonctionnalités ne marchent pas très très bien, mais là encore, comme on a qualifié les scénarios, c'est pas forcément dans des scénarios qui sont les plus prioritaires. Donc à la limite, vous pouvez considérer ça, que l'application, ok, elle passe à 90%, il y a quelques éléments qui ne marchent pas, bah là je ne peux pas exporter dans tel format, bon bah c'est pas grave, par exemple ça je m'en sers pas trop. Là encore, c'est le genre du métier qui vont vous dire si ça pose problème ou pas. Niveau orange, niveau numéro 3, l'application est utilisable, mais là par contre, il y a des problèmes qui sont connus et visibles. Donc ça peut être des problèmes d'affichage, mais ça peut être des problèmes en gros que l'application fonctionne, mais ça crée des erreurs. Mais c'est pas encore bloquant. C'est-à-dire que l'application fonctionne. Mais voilà, il y a des problèmes qui peuvent dire ok, c'est pas très grave, j'ai pas ce contrôle, mais je continue, ça m'empêche pas de travailler, c'est juste que du point de vue usage, c'est pas génial, et bon, ça peut un peu planter. Niveau 3, il va déjà y avoir un peu de travail à faire, probablement plus que les niveaux précédents. Et le niveau 4, là, qui est clairement l'endroit où, si cette application est prioritaire et que vous êtes dans le niveau 4, qui est le niveau rouge, ça veut dire que l'application elle est pas utilisable, qu'elle est cassée, qu'elle crash, que les performances sont inacceptables pour les utilisateurs, et là, auquel cas, il faut se retroucher les manches et se mettre au boulot, parce que globalement, si cette application est prioritaire, ça veut dire que le business en dépend, ça veut dire que l'activité de votre entreprise ne peut pas fonctionner sans cette application, et donc globalement, potentiellement, ça vous bloque votre migration. Migration pour le navigateur, ça vous allez dire, mais c'est pas très grave. Migration dans le futur, pour le futur système d'exploitation, ça peut être plus gênant pour des raisons simplement de support par la suite.
Moi, j'ai une remarque très constructive à faire à ce niveau-là. Ça me rappelle les couleurs en ce moment, des alertes météo sur la neige. Donc ça n'a juste rien à voir, mais comme j'avais envie d'en parler, puisque j'ai dormi sur mon lieu de travail grâce à la couleur orange des 10 cm de neige, quand c'est orange, ça commence à craindre un petit peu quand même.
Voilà, donc effectivement, vert c'est idéal, jaune c'est acceptable, orange et rouge, les gars, on retrousse les manches, et puis faut se mettre réellement face au problème et trouver des solutions.
Voilà, je pense que j'ai clarifié un peu mieux la situation.
Merci pour tous les développeurs qui nous écoutent. Dernière chose, il va falloir donc référencer, documenter les bugs. Donc, quand c'est du bug, on va dire, purement rendu, une capture d'écran peut suffire. Hein. Quand c'est des bugs qui sont plus fonctionnels ou qui sont à un moment en plantage suite à telle ou telle action et un enchaînement d'actions, ça vaut le coup d'enregistrer les étapes menant au bug, donc en gros nécessaire pour qu'un développeur puisse reproduire sans être un gars du métier, reproduire le bug et puis après corriger et voir effectivement qu'en refaisant ce scénario ça ne marche pas. Auquel cas, il y a des outils qui existent, PSR notamment sous Windows 7 va être votre ami. Je vais vous en discuter juste après dans une petite démonstration.
Il fait fureur en général.
Voilà. Et puis dernière chose, quand vous référencez, que vous documentez un bug, donc ça va être un travail fait en collaboration avec le métier, il va falloir décrire les résultats obtenus versus ceux qui sont attendus. Donc le obtenu, ça je pense que vous pouvez tous le voir si on vous dit tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là. Le résultat attendu, en général, c'est plutôt la personne du métier qui va vous dire écoute, normalement, là, l'outil aurait dû fonctionner comme ça et comme ça, ça fait des années que j'utilise, et là, le comportement avec le nouveau navigateur, il est pas bon, tout simplement. Voilà. Alors, autre outil qui peut être intéressant, qui est un complément, qui n'est pas une solution miracle en tant que telle, mais qui mérite d'être connu, donc qui fait partie, c'est un outil qui est disponible en fait dans un pack d'outils qui s'appelle le ACT, l'Application Compatibility Toolkit. Qui est en gros un ensemble d'outils qui permet en gros de faire l'inventaire des applications, un inventaire matériel et de périphériques, qui permet d'évaluer la compatibilité en gros d'une application ou d'un système avec un autre.
Alors ce système fonctionne bien pour des vraies applications riches, on va dire. Mmh. Elle est utilisée entre la migration entre un XP et un Vista Windows 7 lié aux changements structuraux du système d'exploitation, en termes de sécurité, de comportement, etc. Donc là, il va pouvoir facilement vous faire des remontées automatiques. Dans le cas d'un navigateur qui va donc naviguer sur des sites web, vous n'avez pas de magie en fait d'automatisation de la détection des problèmes. Mmh. Ça va détecter de manière automatique un problème très grave que de toute façon vous auriez vu, c'est le navigateur crash sur ce site, voilà, ça va vous le dire, ça va vous faire une belle jambe, parce que vous aurez, de toute façon, vous en serez douté tout seul. Et un autre truc qui n'est pas fait, j'ai déjà eu des clients qui m'ont posé la question, fait, vous avez parlé des moteurs de rendu, j'ai bien compris cette histoire de feuille de style qui est exprimée de manière différente, est-ce que cet outil-là va me le dire? La réponse est non. Pour quelle raison? C'est très visuel, donc c'est très dépendant d'une analyse humaine, c'est-à-dire que si le menu est passé de gauche vers le haut, ou si la couleur est passée de vert à bleu, je schématise, cet outil ne le sait pas, puisqu'il ne sait pas du tout quel était le comportement initial, et ça serait extrêmement compliqué, je pense, de développer un algorithme qui le ferait, quoi. Donc, vous avez besoin de tests humains, c'est un petit peu le bilan de ce genre de slide. Ça va essayer de décrémer les problèmes majeurs évidents, ça va vous faire une remontée. Ça vous fait également la remontée, on va voir dans une copie d'écran suivante, du moteur qui est utilisé actuellement par Internet Explorer sur votre site. Donc voilà, ça prépare un tout petit peu le terrain, mais il n'est pas magique.
C'est un complément d'outils qui complémente effectivement les tests humains, les tests de rendu, etc. Il n'est pas automatisable, c'est pas l'outil magique que vous déployez sur le poste, sur votre parc, et qui va tout faire le travail, et le lendemain matin, vous aurez un beau rapport qui aura été généré. Malheureusement, si c'était aussi simple que ça, on ne serait pas aujourd'hui en train de faire ce workshop qui dure quand même plus de 3 heures. Que va quand même permettre cet outil de disposer de recommandations pour corriger les applications, les sites web. Donc c'est des recommandations, mais ça ne fait pas tout. Donc au sein de l'ACT, on a plus particulièrement un outil qui s'appelle l'IECT, ou Internet Explorer Compatibility Test Tools, qui va en gros être un mécanisme plus de collecte de compatibilité en mode journalisation. Donc en gros, il va tracer en gros ce qui se passe, ce qui est fait sur le poste client du côté du navigateur. Et puis à partir de là, vous pourrez resuivre les traces et éventuellement vérifier si effectivement il y a un problème de comportement dans le navigateur. Donc voilà, c'est plus, on va dire, un outil qui va vous remonter si il y a un activiste qui a été bloqué, s'il y a des erreurs ou une mauvaise gestion du MIME qui a été fait ou autre. Donc une petite capture d'écran de cet outil de trace. Donc ici, on s'est connecté sur différents sites. Et puis voilà, on a différents éléments. Par exemple, on voit ici le mode de rendu qui a pu être utilisé pour se connecter sur le site web. On voit ici, ça peut être intéressant. On voit par exemple ici qu'il y a eu un crash, et donc une récupération de crash sur une application. Donc le DEP ou le non-execute, c'est des fonctions qui sont arrivées dans les processeurs 64 bits, typiquement les cordes audio, etc. C'est des fonctions qui ont été implémentées nativement en fait depuis Windows Vista et puis également dans Windows 7. Donc ça, c'est clairement une nouveauté et qui fait qu'il y a une différence.
C'est structurel lié à plutôt de la sécurité qui fait qu'on a empêché StackDVX de s'exécuter correctement.
Voilà, exactement. Donc voilà, on a quelques informations complémentaires. Ne le voyez pas comme un outil miracle, c'est un complément aux outils précédents qu'on a pu voir. Je pense que ce qui est très important, c'est également de coupler, hors de l'outil, c'est la partie vraiment approche organisationnelle et processus, celle qu'on a pu vous la présenter au préalable.
Alors, ce fameux outil magique qui fait rêver les gens pour d'autres raisons que celles qu'on va vous parler.
Le PSR. Alors, le PSR, en fait, il a une petite histoire. C'est un outil qui est arrivé, en fait, dans la bêta de Windows 7. Et c'est un outil dont l'objectif était, alors le PSR, quand même, pour donner l'acronyme, le Problem Step Recorder, ou l'enregistreur des différentes étapes pour arriver à un problème. Intéressant. J'ai parlé tout à l'heure qu'il fallait reproduire, donner les différentes étapes pour reproduire un bug dans le navigateur. On se doute un petit peu à quoi va servir l'outil. Donc l'outil, bah, il est relativement, son nom parle de lui-même, il permet en fait d'enregistrer les différentes étapes qui vont permettre d'arriver à un problème. Alors, le problème, à l'origine, comment on l'a mis sur Windows 7, ça permettait en gros de dire, de tester Windows 7, quelles que soient les applications, qu'elles soient web ou pas web, et de faire en sorte que n'importe laquelle de nos bêta-testeurs puissent en fait nous remonter un bug sur l'application XZ ou Y qu'ils ont pu avoir. Et du coup, bah, ça nous a permis d'améliorer en gros Windows 7. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous contents
du produit.
Tous contents du produit. Et globalement, bah, c'est l'impact de ce produit en fait n'est pas neutre. Ce produit d'ailleurs est tellement, enfin ce petit outil est tellement intéressant qu'aujourd'hui, si vous avez un IE9, et eh bien en fait, si vous voulez faire une remontée, une IE9 en version bêta, et que si vous voulez en fait faire une remontée de bugs auprès des équipes produits, vous avez donc un menu feedback, enfin remontée d'expérience, retour d'expérience. Quand vous cliquez dessus, en fait, ça va vous lancer un assistant, et à un moment dans l'assistant, vous allez arriver sur un endroit qui est enregistrer les étapes qui ont conduit au problème, et derrière, en fait, ça va vous lancer en fait simplement l'outil PSR qui est simplement réutilisé derrière.
D'accord.
Alors, je te montre quand même à quoi, enfin, je vous montre à quoi ressemble le PSR. Donc, vous allez dans votre menu démarrer, vous tapez PSR. Ou Problem Step Recorder en anglais. Et donc ici, vous allez avoir, hop, on va se mettre comme ça, un petit, une petite barre avec un bouton démarrer l'enregistrement, un bouton arrêter l'enregistrement. Éventuellement, on peut rajouter également des commentaires. Ici, vous allez avoir la durée qui va apparaître. Alors, on va le mettre un petit peu plus haut comme ça, par ici. Je vais démarrer mon navigateur. Voilà, on va se le mettre comme ça. Hop. Et puis, je vais faire quelques petites opérations. On va commencer par démarrer le problème. Alors, par exemple, mon problème, c'est que je suis allé sur le blog, un blog de l'équipe Internet Explorer. C'est juste pour la démonstration. Ah mince, ça c'est en anglais. Moi, je préfère l'avoir en français. Alors, en fait, je me suis trompé. C'était IE France.
Il est vachement mieux celui-là, d'ailleurs.
Sur le blog IE France. Alors, le blog américain, peut-être pour la petite histoire, contient beaucoup d'informations très techniques et très poussées sur chacun des détails d'IE, mais c'est très, très orienté développeur, alors que le blog français qu'on gère avec David et également Fabrice et également Vincent Bellet, c'est qu'on met du contenu qui touche un petit peu tout le monde. Ça peut être
moins
à la fois,
technique, puisqu'on l'anime avec des gens qui ne sont pas développeurs.
Non, parce qu'en fait, on met dedans du contenu pour les professionnels informatiques, les ingénieurs systèmes, les responsables sécurité,
la maison.
Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc j'ai fait ici, puis ici, ce site-là, il me gêne un peu, j'aimerais peut-être le mettre en mode compatibilité. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc je pourrais venir ici, là, venir sur mode compatibilité, et là, je vois que je suis passé en mode compatibilité. Je peux même mettre un commentaire, là. Là, c'est, le commentaire, c'est juste pour tester la différence.
Ok.
D'accord. Et puis également entre temps, j'ai appuyé sur la touche F12. Voilà, ici, F12. J'ai vérifié en quel mode de rendu on était. Ah ben ici, nous, tu vois, on est en IE7.
Oui,
ah tiens, si je bascule en IE8.
Ça ne change pas grand chose.
Ça ne change pas grand chose. Mais c'est pas grave parce que le but ici, tu vois, il y a eu un petit rafraîchissement. Et bien maintenant, je vais faire arrêt de l'enregistrement. Là, il va me proposer de sauvegarder en fait les différentes étapes. Ici, qui n'était pas terrible, mais c'était pour la démonstration. Donc, je vais l'enregistrer sur mon bureau. On va l'appeler test PSR. Pour IE, mais ça ne veut rien dire. Hein, voilà. Toc. Maintenant, donc je vais fermer cet outil. Et là, tu vois ici, j'ai un fichier qui est une archive. En gros, c'est un fichier .zip. Donc, je peux l'ouvrir nativement. Je l'ouvre ici. Et à l'intérieur de ce fichier, j'ai un autre fichier. Donc, dans cette archive, en fait, j'ai un fichier qui s'appelle problème avec derrière. Vous avez ici, vous allez retrouver en fait.
Ouais.
Alors, tu as l'année, le mois, le jour. Donc, on est le 12 décembre, le 16 décembre 2010. Et on voit l'heure à laquelle j'ai fait l'enregistrement.
C'est incroyable.
C'est super bien fait. Et donc, ce fichier, en fait, c'est un fichier MHTML qui, comme normalement tout le monde le sait, ou sinon si vous ne le savez pas, est simplement en fait une page web archive donc avec qui va contenir l'ensemble des éléments.
Une archive unique, d'accord.
Une archive unique. Donc, si je double-clique sur ce fichier, dans mon navigateur, on va fermer ça, dans mon navigateur, je vais avoir ici un document. Alors ici, le texte est écrit en anglais parce que je suis sur une version anglaise de mon système d'exploitation. Sur une version française de Windows 7, vous aurez le tout documenté en français. Et donc ici, ce texte donne toutes les étapes qui ont permis d'enregistrer le problème décrit. Et là, ici, on voit problème numéro 1, donc j'ai commencé à 16h17. l'utilisateur a cliqué sur la barre d'adresse, et donc sur la page qui était cette page-là. Étape numéro 2, j'ai fait deux fois barre entrée, parce que j'ai en fait baissé la taille de ma fenêtre.
Donc ça moniteur, tout ce que tu as fait autour
clic
de la
par
souris,
clic, clavier par clavier.
C'est très verbeux par contre.
Exactement.
Et du coup, le développeur qui récupère ça, il est de très mauvaise foi s'il dit qu'il ne comprend pas les étapes nécessaires.
Exactement. Voilà, là, j'ai cliqué ici, je suis allé changer l'adresse. Alors, un peu plus bas, là, tu vois, c'est très, très, très verbeux, mais c'est volontaire. Et donc, du coup, après, je suis arrivé sur le site ici.
Tu as cliqué
là,
sur page.
Je suis allé sur page, je me suis mis en mode compatibilité. Et là, on voit vraiment, étape par étape, l'ensemble des chemins par lesquels je suis passé. Ce qui est donc relativement bien pour pouvoir reproduire un problème. Là, à la limite, tu vois, si je n'étais pas la personne qui a fait ces étapes, je suis capable de la reproduire parce que là, vraiment, c'est tout détaillé. On voit que la zone qui est cliquée ou modifiée chaque fois est basculée en vert. Et donc, du coup, on a l'ensemble des éléments. On voit ici que j'ai ouvert la touche F12 et toutes les opérations que j'ai pu faire.
Alors, cet outil est super. Pas mal de clients à qui on a fait les démonstrations se sont dit « Ça, moi, j'ai une idée d'utilisation différente. C'est pour faire une doc utilisateur d'un de mes produits. Il est trop verbeux, mais je préfère avoir plus d'informations et
c'est facile d'épurer.
Et d'épurer tout ça.
Effectivement, ça vous fait pour vous toutes les captures d'écran, etc. À la limite, ça nous empêche de faire un copier-coller et d'aller mettre ça dans un document Word où vous remettez un petit peu après en page, mais ça vous a fait toutes les captures d'écran, ça vous a mis en vert l'ensemble des zones qui sont concernées par les actions, ça vous a dit si vous avez cliqué sur le bouton un tel ou un tel. Enfin, je veux dire, globalement, l'outil est tout pas mal. Et pour ceux qui veulent aller plus dans le détail, là, on est vraiment plus dans les développeurs qui vont devoir un petit peu après rechercher le problème exact. Eh bien, on a une zone ici où il y a plus d'informations qui vont dire voilà, il y a eu 17 étapes pour aller au problème. Le système d'exploitation ici, c'était un Windows 7 en version 64 bits, en français, tu le vois. Et puis après, j'ai tout le détail avec les versions du navigateur, etc., etc. Et là, tout à l'heure, je vous ai mis un commentaire. Regardez, on le retrouve ici. Commentaire, c'était juste pour tester la différence. Là, ça peut être vraiment.
Alors, petite remarque, pareil que les gens nous posent tout le temps lorsqu'on fait on a fait ce workshop, c'est est-ce que je peux utiliser cet outil sur d'autres systèmes d'exploitation que Windows 7? Et la réponse est
non.
Non. C'est spécifique à Windows 7. En même temps, c'est pas très grave dans le sens où vous pouvez toujours donner une machine Windows 7 sous forme d'une réelle machine ou une machine virtuelle distante pour que vos fonctionnels testent leur application.
De toute façon, le but de la migration,
c'est quand même arrivé à Windows 7, hein, donc vous aurez cet outil-là pour pouvoir faire ce genre de choses.
À la limite, si on devait même conseiller, on dirait faites l'ensemble de vos tests sur IE8 et Windows 7, même si vous allez migrer sur Windows XP. Le Windows XP, ça permettra juste de vérifier à la fin qu'il n'y a pas de différence réellement, mais à la limite, directement faire l'étape la plus importante, qui est directement de tester dans le cadre de l'environnement cible, qui sera de toute façon Windows 7 et IE8.
Donc ça conclut notre module 6 sur cette partie de un petit peu de méthodologie et un petit outil supplémentaire pour vous aider. La prochaine partie va parler du cas du User Agent, une petite partie mais qui peut-être vous intéresser. Donc on se retrouve dans cette partie numéro 7.
Merci.